tutti et à tous. Que la grâce et la paix de notre Dieu le Père et de Jésus-Christ soient sur nous. Amen. Vous dites, depuis que tu es là, tu dis toujours la même chose avant de commencer. Mais oui, on a besoin de ça. La grâce de Dieu et la paix en Jésus-Christ. Et c'est de cela qu'on a besoin. Ce matin, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le premier épître de Pierre. Chapitre 4, verset 17. Voilà ce qu'on peut lire dans ce verset-là. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Voilà ce qu'il dit. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? J'ai donné ce message ce matin. Le titre, c'est « Les jugements du désobéissant ». Vous savez, comme dans cette vie-là, lorsque quelqu'un désobéit, il y a automatiquement une peine. Et voilà une question solennelle. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Qui pourrait y répondre pleinement à cela? Et pourtant, c'est une question que la Bible nous pose. Et c'est une question qui concerne quiconque entend l'Évangile. Peut-être aujourd'hui, vous êtes venu là par hasard. Mais vous allez entendre parler de l'Évangile. Et cette question, il vous concerne. Car, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que l'Évangile? Qui peut me donner une définition de l'Évangile?
La bonne nouvelle de Jésus.
Oui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y en a un seul qui en donne. Je vais vous donner les versets à utiliser lorsque vous présentez l'Évangile. C'est quelque chose de très important. Et il se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Le verset 1, 2 et 3. Bien sûr, vous savez que l'épître aux Corinthiens, c'est Paul qui l'a écrit. Et donc Paul, il écrit aux Corinthiens. Et voilà ce qu'il leur dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Voilà l'évangile que Paul, il annonçait. Et c'est l'évangile que nous devons annoncer à tous ceux qui ne le connaissent pas. Alors, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Voilà, ça c'est. Paul, il a enseigné, il a montré comment être sauvé. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? Il a dit, vous êtes sauvés si vous le mettez en pratique et dans les termes dans lesquels moi, je vous l'ai dit. Pas dans les termes où l'homme, il peut vous dire que vous êtes sauvés. Voilà l'Évangile. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Donc, vous voyez, il enseigne quelque chose qu'il a reçu. Qui c'est qui a donné à Paul cet évangile-là? On l'a vu mercredi dans notre étude, par révélation, par inspiration, Dieu, il lui a donné la signification de cet évangile. Il est resté 3 ans dans le désert, et c'est là que Paul, il a reçu de Dieu, par révélation, par inspiration, qu'est-ce que c'est l'évangile? Voilà qu'est-ce que c'est l'évangile. Christ est mort pour nos péchés, c'est bien ça. Mais il faut lire la suite. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Cephas, mais toujours selon les Écritures. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et c'est là que nous pouvons puiser la signification de cet évangile. C'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui a manifesté envers l'humanité en envoyant Jésus-Christ, son Fils, pour mourir pour nos péchés. Et il est mort pour nos péchés, mais il a été enseveli et il est ressuscité. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Comme il a dit le frère, et il nous a dit, ne craignez rien, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque cette place il sera prête, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et dans Thessaloniciens, il nous est dit, au cri, au son de la trompette, au cri d'un archange, les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, nous serons enlevés tous auprès de Dieu, dans le paradis de Dieu. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est pour l'homme, c'est pour l'humanité, c'est cette bonne nouvelle. Et vous savez qu'il y a plein de monde qui encore ne connaît pas cette bonne nouvelle. Il y en a beaucoup. Peut-être au travail, peut-être où est-ce qu'on va, au marché, dans la ville, dans notre voisinage, dans notre cité, dans notre... Il faut aller partout et annoncer cette bonne nouvelle que Dieu, il a aimé le monde. Il a préparé les choses pour que l'humanité il soit sauvée. Voilà l'évangile et qui nous montre cet amour de Dieu. Et justement, cet amour de Dieu, on va voir l'amour de Dieu. Quelle est la source de l'amour de Dieu? Quelle est la source de l'amour de Dieu? Regardez dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est l'évangile de Dieu. C'est pas l'évangile d'Aldo, c'est pas l'évangile de Pape François. Non, c'est l'évangile de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il parle, lorsqu'il annonce, il ne ment pas. Ça vient de Dieu. Il a été révélé, inspiré, et c'est un évangile inhérent, c'est-à-dire pas de faute, pas d'erreur. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Ça vient. La source, c'est ça. Elle vient de Dieu. Lorsque nos parents, Adam et Ève, ils ont péché, ils méritaient le châtiment, parce qu'il leur a dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Ils sont morts. Ils vont mourir physiquement, ils sont morts spirituellement, mais Dieu, au lieu de les juger tout de suite, il leur a envoyé cette promesse dans Genèse 3,16, qu'une postérité, il viendrait et il le sauverait de cette perdition. La source, c'est de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné cette bonne nouvelle, que Dieu nous aime. C'est ça ce qui m'a amené au Seigneur, à moi. Je croyais que Dieu, il était absent de la création, que Dieu, il ne s'occupait pas des humains. Et c'est vrai que chaque fois qu'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ou sinon, lorsqu'on va témoigner, on dit, tu nous parles de l'amour de Dieu, regarde ce qu'il y a tout autour de nous. Cet enfant qui vient d'être tué, les gens qui vont être tués à droite, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Pourquoi il n'intervient pas? Et pourtant Dieu, il est intervenu. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. La source, c'est de Dieu. Cet évangile, regardons, pourquoi est-ce que Dieu, il a donné cet évangile? Pourquoi il a donné cette révélation? Pourquoi il a donné cette révélation? Toujours dans 1 Romains, chapitre 1, le verset 16. Regardez. Car je n'ai pas point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est l'évangile de la grâce. Il n'a pas honte. Et c'est vrai que des fois, lorsqu'on va témoigner, n'est-ce pas, on a un peu honte de parler. De parler de Jésus-Christ. De parler de ce que nous sommes. Comme je dis toujours, est-ce que vos voisins savent que vous êtes chrétien? Que vous avez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Que c'est par lui qu'on est sauvé. C'est par lui qu'aujourd'hui nous pouvons dire, oui, s'il m'arrive quelque chose, je monte au ciel. C'est l'évangile de l'amour de Dieu qui vient de Dieu, mais c'est l'évangile de la grâce. Pourquoi de la grâce? Parce que nous ne méritons rien. La seule chose que nous méritons, c'est le châtiment de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, il nous accorde cette grâce. Voilà le canal, le but, c'est la grâce. Quel est le canal maintenant? Quel est le canal? Hein? Et le canal, c'est Christ. C'est par et à travers lui que nous avons ce salut. Vous enlevez Jésus-Christ, il ne vous reste rien. C'est lui qui est venu, il a donné sa vie, il est mort pour nos péchés. Vous savez, il fallait une mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Si Dieu ne tient pas cette promesse, il n'est pas un Dieu dans lequel on peut faire confiance. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Il a pris sur lui ce que nous méritions. Et il est mort à notre place. Vous savez, dans le crucifix, dans la croix, là, Jésus, il n'y est pas. Il a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité. Mais ce n'était pas la place à Jésus. C'était la place à moi. C'était la place à vous. Parce que vous, nous, nous sommes des pécheurs. Jésus, il a dit lui-même, qui de vous me convaincra de pécher? Il était sans péché. Et pourtant, il a pris notre place. Le canal, c'est Jésus-Christ. Oui, c'est la source, c'est l'évangile de Dieu. Le canal, c'est Jésus-Christ. Et le but, c'est le salut. C'est le salut pour l'humanité. Parce que l'humanité ne mérite pas. La seule chose qui mérite, c'est le châtiment. Mais Dieu, il est intervenu en grâce. Quel grand Dieu que nous avons. Quel grand Dieu. Un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui m'aime. Et toutes ces choses-là, je vais vous lire dans Galates. Galates chapitre 2. Prenez Galates chapitre 2. Tout ce que Jésus, il a fait pour que nous puissions recevoir ce salut. Galates chapitre 2, le verset 20. C'est un seul verset, mais il y a cette merveille que la grâce il a accomplie dans la vie de tous ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ. Voilà ce qu'il dit, ce verset. Galates 2, 20. J'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dans ce seul verset, il y a cette grâce merveilleuse dans laquelle chacun de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils sont rentrés. La première grâce, c'est de savoir que il m'a aimé. Il m'a aimé. Christ, il m'a aimé. Le Fils de Dieu, il m'a aimé. Et s'il m'a aimé, c'est qu'il me connaît. Il me connaît. Deuxième grâce, c'est que Christ, il a été crucifié pour moi. Il est mort pour moi. Hein? Le Fils de Dieu a été crucifié. Troisième, il s'est livré lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a livré, mais lui-même, il a dit. Il y a ce verset dans Isaïe qui dit, « Mais voici, envoie-moi. » Dieu qui se pose la question, il dit, « Qui enverrai-je pour sauver cette humanité que j'aime ?» Et c'est là que Jésus s'est levé, il a dit, « Mais voici, envoie-moi. » D'ailleurs, lui-même, il a dit, « Il n'y a personne, il m'ôte la vie. C'est moi qui la donne. » D'ailleurs, lorsqu'il était sur la croix, Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a baissé la tête et il a expiré. Il est mort quand il voulait. D'ailleurs, les Romains se sont étonnés qu'il soit déjà mort. Mais lui, il est Dieu et il a donné sa vie lui-même. Il a remis son esprit entre les mains de Dieu et il est décédé. Voilà pourquoi, comme il est mort, on ne lui a pas cassé les jambes. Parce qu'il était mort. Aux deux autres, ils étaient vivants, on lui a cassé les jambes. Et tout ça parce qu'il y avait une prophétie à accomplir. Aucun de ses os n'ont pas été rompus. Parce qu'il est mort au temps voulu. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Ça, c'était encore une grâce. Et il nous dit, la quatrième, il nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, nous sommes morts. Nous sommes morts avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et ça, c'est une joie pour chacun de nous. Mort à cette vie qu'on est en train de mener. Voilà pourquoi il est appelé la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Ensuite, il dit, « Et si je vis maintenant ?» Pourtant, on vient de lire qu'on a été crucifié. Et ensuite, une autre grâce, il dit, « Et si je vis maintenant ?» Ça, c'est pour nous expliquer que nous sommes morts à cette vie qui nous entoure, mais nous sommes vivants, nous sommes ressuscités à une vie meilleure, à une vie que nous devons vivre par la grâce de Dieu. Et ensuite, il nous dit aussi, « Ce n'est plus moi qui vis. » Voilà, je suis mort, crucifié avec Christ, et si je vis, oh, on est vivant. Mais ensuite, il dit, « Mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » C'est Christ qui vit en nous. C'est, si nous vivons, c'est grâce à Christ. Si nous faisons quoi que ce soit, c'est grâce à Christ. Si vous êtes ici ce matin, c'est grâce à Christ. C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Jésus-Christ qui vous amène afin que vous puissiez ouvrir votre cœur. Et ensuite, il nous dit, si je vis maintenant dans la chair, parce qu'on est vivant, il dit, je vis dans la foi. C'est-à-dire que nous sommes vivants, mais nous sommes déjà là-haut. Hein, comme on dit toujours, hein, les chrétiens sont les gens les plus hauts au monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont la tête au ciel et les pieds sur terre. Nous vivons, mais nous sommes déjà avec. D'ailleurs, dans Éphésiens, il nous est dit que nous sommes assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Quelle merveilleuse chose de savoir que nous sommes là, mais nous sommes aussi auprès du Père. Jésus, c'est ce qu'il disait. Hein? C'est ce qu'il disait, Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père agit. Moi, j'agis. Et à la fin, il a dit, Père, rende-moi la gloire que j'avais auparavant auprès de toi. Voilà les sept merveilleuses choses que ce verset, il nous dit. Et c'est vraiment un évangile qui est fait pour l'humanité. Pour que l'humanité puisse continuer à vivre. Parce que si elle continue comme ça dans l'état où est-ce qu'elle vit aujourd'hui, il finira ses jours dans les temps de feu, comme j'ai dit la semaine dernière, et ensuite il sera jeté dans l'enfer avec le diable. Mais c'est aussi un évangile éternel. C'est pas cette bonne nouvelle, c'est pas momentané. Mais c'est la bonne nouvelle éternelle. Il nous a dit que si tu crois, tu vivras. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Pas tu as pour un moment, mais c'est l'évangile, c'est éternel. On l'aura toujours. Celui qui croit a la vie éternelle. Nous sommes là, nous avons déjà la vie éternelle. Nous ne la vivons pas. Mais nous l'avons déjà, car si nous allons mourir, Cette vie terrestre, il va s'arrêter et automatiquement, une nouvelle vie, il va commencer au ciel. C'est exactement ce qu'il a dit le Seigneur au larron, vous en souvenez, hein? En vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il allait mourir quelque temps plus tard, paf, il serait au paradis. C'est ça l'évangile, c'est ça l'évangile. L'évangile de la bonne nouvelle, à laquelle tous, ils doivent se tourner. Car si on ne se tourne pas vers cet évangile, c'est la perdition. Alors, cet évangile, qu'est-il demandé à ceux qui entendent l'évangile? On annonce l'évangile. Il y a ce verset qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui n'y croit pas fait Dieu menteur. » La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qui c'est qui annonce l'évangile? C'est ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. C'est les prédicateurs, c'est les évangélistes, c'est les témoignages de tout chrétien. Mais cette foi, il vient de ce qu'on entend. Lorsqu'on on annonce l'évangile, on présente des paroles qui sortent de la Bible. Car la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu, encore une fois, je mets l'accent sur ces choses-là qu'on a vues mercredi. Hein. La Bible, c'est la révélation de Dieu, c'est l'inspiration de Dieu qui l'a inspiré lui-même, et c'est une parole inhérente, sans erreur. C'est ça qu'il y a la différence, par exemple, entre ça, la Bible et le Coran. Vous savez que le Coran, il a été dicté à Mohammed. Il est venu un ange et il lui a dicté l'évangile par la voix. Hein. Il paraît qu'il ne savait pas écrire Mohammed. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui, une fois que il est sorti et il a annoncé ce que l'ange il lui a dit. Et qui c'est qui a écrit tout ça? Mais les gens qui ont entendu ce que Mohammed y répétait. Donc, c'est tous et n'importe qui. Tandis que là, dans la Bible, c'est la révélation de Dieu, inspirée de Dieu, et c'est la Bible inhérente, sans faute. Voilà pourquoi nous devons faire confiance. Et qu'est-ce que c'est qu'il dit à tous ceux qui entendent l'Évangile? Il demande quoi à la parole de Dieu? C'est d'obéir. D'obéir. L'obéissance. Mais dirait oui, mais je fais tant de choses pour Dieu. Oui, mais la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque Dieu il dit quelque chose, il faut le faire. Et pas se laisser entraîner par cette pensée mondaine qu'il y a aujourd'hui, qui est même prêchée dans des églises, hein, qu'ils te disent, oui, Dieu il a dit ça dans le temps pour le peuple d'Israël, mais aujourd'hui, les choses ont changé, on vit dans une autre époque. Pour Dieu, il n'y a pas d'époque. Hein? Lorsque Dieu dit quelque chose il y a 2000 ans ou 3000 ans, il est valable pour aujourd'hui aussi. Car ça serait désastreux que Dieu change d'avis. Vous demandez à quelqu'un, à l'extérieur de ceux qui croient dans la parole de Dieu, il dit, s'il t'arrive quelque chose, où est-ce que tu vas aller? Ah, mais je ne sais pas, moi. Dieu seul le sait. Nous qui avons la Bible, qui croyons en Jésus-Christ, on nous pose la question, où est-ce que tu vas si tu meurs? Mais je vais au paradis. Oh, tu n'es pas un peu orgueilleux de dire ça? Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui nous le dit dans sa parole. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous tous qui croyez. Donc voilà, nous disons quelque chose que Dieu, c'est pas moi qui dis ces choses-là, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui dit ces choses-là. Et donc, tout ce que Dieu dit, nous devons obéir. C'est un peu comme je vous disais tout à l'heure dans notre petite étude, cet homme qui prêchait l'évangile à Paris, hein, qui a traité les homosexuels qu'ils appartenaient au diable. Hein, Voilà, et il y a quelqu'un qui s'est jeté sur lui et il l'a frappé. Voilà. Et c'est la même chose. Ce jeune homme, il n'a rien dit. Mais ce jeune homme, il aurait dû lui dire, écoute, c'est pas moi qui te dis ça. Tiens, lis dans la parole. C'est marqué ça. C'est pas moi qui te le dis, mais c'est Dieu qui te le dit. C'est comme ce prédicateur. Il était habitué à aller dans les bars où il avait les marins, les gens de perdition et tout ça. Il rentrait là-dedans, il était bien ardu. Hein. Et il a dit, vous êtes tous des pécheurs, vous allez aller en enfer, vous êtes tous condamnés, tout ça. Il y a un gros homme balèze, il s'approche, il le prend par la chemise, il le soulève, il dit, qu'est-ce que tu as dit? Et lui dit, ah, c'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu dans la parole. Parce que lorsqu'on annonce quelque chose, lorsqu'on témoigne, ce n'est pas nous qui parlons. Nous ne devons pas apporter nos propres paroles. Nous devons apporter la parole de Dieu. Et Dieu, il nous dit que tous ceux qui entendent l'Évangile et qui ne croient pas, qui n'obéissent pas, ils finiront dans le châtiment, dans le séjour de mort, en enfer par la suite. Je ne vais pas vous répéter ce que j'ai dit dimanche dernier, qu'on ne veut pas, qu'on ne va pas à l'enfer tout de suite, on va dans les séjours de mort. Ensuite, dans l'Apocalypse, il nous est dit que les séjours de mort, il a craché, il a vomi ses morts. Et ils passeront dans les jugements derniers, et ensuite ils vont être jetés dans l'enfer. Car l'enfer, il n'a pas été créé pour l'homme. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que l'homme n'aille pas en enfer. Si on va à l'enfer, c'est parce que nous le voulons. Donc, Dieu, il demande l'obéissance. Obéir à ce qu'il dit dans sa parole. C'est ça aussi qui m'a mené au Seigneur. L'amour de Dieu et la croyance dans sa parole. Les pasteurs, lorsqu'il m'a parlé de ça, moi qui croyais être d'une grande intelligence dans l'Église catholique, dans les croyances catholiques, mais ces pasteurs-là, il m'a complètement jeté par terre. Il m'a mis la Bible dans la main et je me suis agenouillé. C'est ça la parole de Dieu. Lorsqu'on croit dans la parole, ça fait cet effet-là. Et lorsque Dieu nous dit quelque chose dans la Bible, nous devons obéir. Car Dieu ne change pas d'avis. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Et nous avons la vie. Mais qu'est-ce qui est demandé? C'est de croire. Et pas seulement de croire. Parce qu'une fois qu'on a cru, il y a autre chose aussi qu'on demande. Et ça, on le trouve dans Romains, chapitre 1. Il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cru, il faut le vivre. Le vivre, le mettre en pratique. Jésus nous l'a dit, ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur qui est mon disciple, mais c'est celui qui met en pratique ce que moi je dis. Il y a des gens qui connaissent la Bible par cœur et pourtant ils ne vivent pas la vie du Seigneur. Ils n'obéissent pas et pourtant ils connaissent ces choses-là. Il faut pas seulement croire, mais il faut le vivre. Et pas seulement croire et le vivre dans notre vie de tous les jours, notre vie pratique, mais il faut aussi le publier. Il y a ce cantique, « Publiez bien haut la bonne nouvelle ». Nous devons témoigner, nous devons la répandre. Je vous le dis toujours, pourquoi avons-nous été sauvés? Pas pour vivre béatement comme ça, oui, je vais aller au paradis. Non, Dieu il nous a sauvés pour annoncer cet évangile. Et c'est à chacun de nous. Nous sommes les mains, les pieds, la tête, la langue de Dieu. C'est à travers nous que les gens tout autour de nous, ils pourront entendre cette bonne nouvelle. Mais Voilà, c'est ce qu'il est demandé. Obéir en croyant, hein, en vivant et en publiant. C'est ça que Dieu demande. Obéir. Hein? Mais quel sera, comme on vient de lire dans le verset d'introduction, qu'il dit, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas? Hein? Ne pas obéir et ne pas croire à l'évangile, hein? Qu'est-ce qu'il arrive? C'est désobéir au commandement de Dieu. Au commandement de Dieu. Il y a Jésus, on lui a demandé, quel est le plus grand des commandements? Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça résume les 10 commandements. Cette loi morale que Dieu il nous a donnée, parce que les 4 premiers commandements, ils concernent Dieu, et le reste, ils concernent notre prochain. Vous vous souvenez ce jeune homme qui a demandé à Jésus, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Jésus il a dit, observe les commandements. Et c'est vrai que si on observe la loi entièrement, hein, c'est ce qu'il avait dit Jésus, d'aimer Dieu avec tout son cœur, toute sa pensée, tout son corps, est-ce que nous le faisons? Et ensuite d'aimer notre prochain. Les deux ensemble, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Mais nous ne le pouvons pas. Nous ne le pouvons pas. Voilà pourquoi c'est ne pas obéir à l'évangile, c'est désobéir au commandement de Dieu. Hein? Et vous savez, pour ceux qui n'obéissent pas, ce sera la perte de tout privilège. Dieu nous fait tellement de promesses. Si tu te tournes vers moi par Jésus, tu auras la vie éternelle, tu seras co-héritier, tu auras un héritage dans les cieux, tu auras la paix, tu auras la vie éternelle, toutes ces choses-là. Si on ne croit pas, c'est une perte de tous ces privilèges. Perdre toutes ces choses que Dieu, il aimerait nous donner. Il aimerait nous donner. C'est comme le chrétien qui est passé au tribunal de Christ. Il est monté au ciel et le Seigneur il lui montre tout ce que ses bonnes œuvres les récompensent. Voilà, ça, tu les as gagnées parce que tu as accompli la volonté de Dieu. Tu as travaillé pour Dieu. Il était tout content, le chrétien. C'est une histoire, c'est pas biblique, hein. Ne venez pas me voir et me dire, oui, est-ce que c'est marqué ça, hein? Il était tout content. Mais le Seigneur, il a dit, viens avec moi. Il l'a ramené dans une pièce fermée. Il était rempli de trésors. Et il a dit, c'est quoi ça? Il a dit, ça, c'est toutes les récompenses que tu aurais pu avoir. Si seulement tu aurais écouté la voix. Si seulement tu aurais travaillé pour le Seigneur. Mais si on n'obéit pas au commandement de Dieu, nous perdrons tout ça. Qu'est-ce qu'il nous restera? Des peines éternelles, de la souffrance, dans un endroit que Dieu il a réservé, pas pour l'homme, mais pour le diable. Et il recevra aussi l'obscurité des ténèbres. Pourquoi l'obscurité des ténèbres? Parce que Dieu, où est-ce qu'ils sont? Il n'y est pas. Et Dieu est lumière. On vivra dans les ténèbres, dans les souffrances. Il perdra toutes ses bénédictions et il vivra dans un endroit pénible à vivre. Et ensuite, comme il nous est dit dans Apocalypse 20, il nous est dit que ça sera la seconde mort. La première mort, c'est la mort physique. Sinon, par le Seigneur, ils iront dans les séjours de mort. Et ensuite, la seconde mort, c'est la mort éternelle. Loin de Dieu, dans cet enfer, avec le diable et avec ses démons. comme j'ai dit dimanche, ne croyez pas que Satan il soit là avec une fourche. Hein? Il vous tourne, il vous retourne pour que vous puissiez souffrir. Déjà, ils disent que c'est le chef de l'enfer, c'est lui qui dirige l'enfer. Non, ça c'est des inventions des hommes. Attention, ce n'est pas ça que tu vas en faire. Hein? Et les diables vont se couper de toi. Hein? Ce n'est pas ça qui va se passer. L'enfer, il y aura les diables. Il y aura l'antichrist, il y aura les faux prophètes et il y aura tous ceux qui ont fait confiance au diable. Voilà, qu'est-ce que c'est qui arrivera à tous ces gens-là qui ont entendu cette bonne nouvelle de Jésus-Christ? S'ils n'obéissent pas, ils finiront dans un châtiment éternel, loin de Dieu. Pourquoi j'ai voulu vous dire ça? Parce qu'il faut faire attention. Vous savez que notre vie est courte. La vie est courte. La mort, la fin de la vie, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est ce qui compte, c'est se tenir prêt. Et comment être prêt? C'est en se laissant conduire par, à travers Jésus-Christ. Car il n'y a que lui qui apporte le salut, qui apporte la vie. Est-ce que vous aimez Jésus? Il y a notre pasteur qui est décédé. À certains moments, on se dit, tiens, on va lui rendre visite avec 3 ou 4 personnes et on va chanter. On était là autour de son lit et avant qu'on commence, il a dit, je veux que des cantiques où le nom de Jésus est là. Il savait ce qu'il avait dans son cœur. Et il voulait qu'entendre qu'un seul mot. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Est-il le vôtre? Réfléchissez à cela. Car la fin est proche. Le retour du Seigneur est proche. Jacques nous dit que la vie, c'est comme un nuage. Un coup de vent et le nuage s'en va. Ça suffit d'un moment pour mourir. On ne sait pas si en sortant de cette église, nous allons mourir. Mais encore une fois, sommes-nous prêts à rencontrer notre Dieu? Voilà la question que nous devons tous nous poser. Si on a le Seigneur Jésus, on peut dire oui. Viens Seigneur Jésus, comme ça s'est fini la Bible. Hein? Le Seigneur, il a dit, je viens bientôt. Et l'Église a répondu, Maranatha. Si le Seigneur, il vient et vous ne l'avez pas dans votre cœur, vous êtes voués à une éternité sans Dieu, une vie de peine, de souffrance. C'est ça que vous voulez? Tournez-vous vers le Seigneur, car c'est auprès de lui qu'il y a la joie, la paix, les saluts et la grâce. Amen.